DW. Le journal. Sandrine Blanchard.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle. Il est 17h en temps universel. Nous sommes le mardi 23 avril 2024. Au sommaire de ce journal, un entretien avec succès Masra, le premier ministre tchadien qui se présente à la présidentielle du 6 mai prochain. L'Union sacrée, c'est-à-dire la majorité parlementaire en RDC, qui désigne son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. La justice burkinabé qui déboute un pourvoi de l'État et ordonne la remise en liberté de l'avocat Guy Hervé Kam. Et puis le point sur des affaires d'espionnage pour le compte de la Chine en Allemagne. Mais tout de suite, c'est le flash d'information et vous est présenté aujourd'hui par Marco Voltaire. Bonsoir Marco.
Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce tour de l'actualité au Parlement européen où les eurodéputés ont voté à une écrasante majorité pour l'interdiction de vendre en Europe des produits issus du travail forcé. Les États membres de l'UE doivent encore formellement confirmer cette nouvelle législation. La loi vise notamment des produits issus de Chine, plus particulièrement de la région du Xinjiang où Pékin est accusé par de nombreux pays d'imposer des travaux forcés à la minorité musulmane des Ouïghours. Pour certains produits jugés à risque, les importateurs devront fournir des informations détaillées sur les fabricants. La loi passe aussi par la création d'une base de données et d'une liste de secteurs touchés par le travail forcé dans des régions précises dans le monde. Cela permet ensuite d'ouvrir des enquêtes au niveau européen. Selon l'ONU, près de 28 millions de personnes étaient victimes de travail forcé dans le monde en 2021, dont plus de 3 millions d'enfants. Les Nations Unies qui réclament une enquête internationale sur la découverte de fosses communes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Il s'agit des hôpitaux d'Al-Shifa dans la ville de Gaza au nord et de l'établissement Nasser de Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. Des responsables palestiniens affirment avoir exhumé 200 corps à l'intérieur de l'hôpital Nasser et accusent l'armée israélienne de les avoir tués et enterrés. À Al-Shifa, qui a été visé par des opérations militaires, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait rapporté au début du mois que le complexe hospitalier était jonché de dépouilles humaines. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dénonce un climat d'impunité et demande des enquêtes indépendantes.
Et ce conflit au Proche-Orient est entré dans son 200e jour.
Et toujours aucun signe de répit. Les bombardements israéliens se sont poursuivis aujourd'hui dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a profité de ce 200e jour symbolique pour appeler une nouvelle fois la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier. La libération des otages est l'une des conditions posées dans les négociations de trêve. Les termes de cette trêve sont négociés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Doha, qui a déclaré aujourd'hui que l'organisation terroriste du Hamas, qui a son bureau politique au Qatar, restera dans l'Émirat tant que sa présence est utile et positive dans l'effort de médiation.
Et puis en Allemagne, on vous en a déjà parlé sur notre antenne, se déroule en ce moment le procès d'une des figures de l'extrême droite allemande.
Il s'agit de Björn Höcke du parti Alternatif pour l'Allemagne, AfD. Il est accusé d'avoir sciemment utilisé un slogan nazi pour galvaniser ses partisans. Aujourd'hui, Höcke a clamé son innocence devant les juges, assurant qu'il n'avait rien à se reprocher. L'ancien professeur d'histoire avait déclaré lors d'un meeting politique la phrase « Tout pour l'Allemagne ». Or, c'était la devise des SA, la formation paramilitaire du parti nazi qui a porté Adolf Hitler au pouvoir. Le dirigeant d'extrême droite risque dans ce procès jusqu'à 3 ans de prison.
En Tunisie, la mer ramène sur la plage des corps inanimés de migrants. Ils sont décédés en tentant de traverser la Méditerranée.
Oui, les corps de 22 personnes mortes noyées au large de la Tunisie ont été retrouvés sur les côtes dans la région de Sfax depuis samedi dernier. Il s'agit a priori de migrants d'Afrique subsaharienne. La Tunisie et la Libye sont les principaux pays de départ en Afrique du Nord pour rejoindre l'Europe, notamment l'Italie. Les disparitions et les décès lors de cette traversée ont quasiment doublé par rapport à 2022.
Et pour finir, la lutte contre la pollution de plastique dans le monde est discutée en ce moment au Canada.
Oui, les négociations ont repris à Ottawa alors que les pays membres de l'ONU se sont engagés à finaliser un traité d'ici la fin de l'année pour proposer des mesures concrètes pour faire diminuer la quantité de déchets plastiques dans le monde. Des milliers de lobbyistes, scientifiques et ONG de défense de l'environnement sont présents à Ottawa. Aujourd'hui, moins de 10% des plastiques sont recyclés. Environ un tiers de tous les plastiques fabriqués sont utilisés dans des emballages à usage unique, notamment pour les aliments et les boissons.
Il est 17h05 en temps universel. Tout de suite, la suite du journal.
DW.
Au Tchad, la campagne électorale se poursuit en vue de l'élection présidentielle au Tchad. 10 candidats sont en lice, dont le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Mais nous y reviendrons dans un petit instant. Au Burkina Faso, c'est un revers pour l'État et les autorités de la transition. La Cour administrative d'appel de Ouagadougou a rejeté l'appel de l'État burkinabé et a une nouvelle fois ordonné la libération de l'avocat Guy Hervé Kam, incarcéré depuis la fin janvier. La Cour administrative a en effet estimé que l'État n'avait pas pu apporter les preuves de l'existence d'une procédure contre Guy Hervé Kam. Cette décision vient confirmer celle du juge des référés qui avait déjà ordonné sa libération. On écoute la réaction de Maître Ambroise Faram, l'un des avocats de Guy Hervé Kam, au micro de Charles Bacot, notre correspondant à Ouagadougou.
Voilà donc un État qui refuse de se soumettre aux décisions de justice, de la justice qu'elle-même a mise en place. Et l'État, malgré que la décision était exécutoire, a relevé appel en estimant qu'il y a une procédure pénale qui est engagée contre Maître Kam. Et c'est dans le cadre de cette procédure pénale qu'il serait détenu. Vous l'aviez entendu vous-même ce matin, le président de la Cour d'appel administrative dit que l'État a été incapable d'apporter la preuve qu'il y a une procédure pénale contre Maître Kam et que c'est en vertu de cette procédure pénale qu'il est privé de sa liberté. Alors, comme l'État lui-même est incapable de faire la preuve de l'existence d'une procédure pénale contre lui, de faire la preuve de la régularité de sa détention, alors le premier président de la Cour d'appel a confirmé la première décision en disant autrement que Maître Kam doit être mis immédiatement en liberté. Nous espérons qu'au moins après cette deuxième décision, confirmative de la première, l'État va se soumettre au moins cette fois-ci à la décision de justice qui a été rendue. Nous l'espérons et nous pensons que si nous sommes véritablement dans un état de droit qui est respectueux des règles et de la législation qui gouverne dans ce pays-là, dès ce soir, on devrait pouvoir retrouver Maître Kam en toute liberté.
C'était Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de Guy Hervé Kam. Toujours au Burkina Faso, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, un parti d'opposition, demande à la junte au pouvoir de cesser les réquisitions forcées. Si la situation sécuritaire est déplorable dans le pays, c'est de la responsabilité de tous, souligne l'UNDD, qui a fait récemment des propositions pour une sortie de crise. Le parti propose des assises nationales, de consulter les représentants de la dernière législature dissoute et d'organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Aimé Maker Ouedraogo, président des jeunes cadres de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, soutient toutefois la position des militaires putschistes. Il ne réclame pas le retour du pouvoir aux autorités civiles dès le mois de juillet prochain, comme cela a été prévu initialement. Dans cette interview, il répond aux questions de Charles Bacot, notre correspondant à Ouagadougou.
En juste ligne du partage de responsabilités, nous avons demandé en retour que la transition n'aggrave pas sa part et qu'elle en finisse avec les enrôlements forcés, enlèvements, entraves aux libertés publiques, sanctions judiciaires sans habilitation légal et autres faits attentatoires à l'éthique républicaine et aux droits fondamentaux. Nous sommes, je le ressens personnellement et intuitivement, voudrais-je dire, à un temps de haute politique d'État, où le rationalisme devrait nécessairement l'emporter sur les intimidations, violences morales et matérielles, bref, sur l'empirisme dans les prises de décision.
Avez-vous été victime de répression ou de pression?
Vous savez, notre position a été toujours de conseiller, d'orienter, de faire des propositions, mais pour le moment, nous restons dans le cadre, bien sûr, républicain des choses.
Comment vous voyez-vous être aujourd'hui de l'opposition, si vous devez avoir peur d'être envoyé par exemple au front ou en prison?
Les activités sont suspendues, les activités politiques, hein, comme cela a été dit. Nous ne faisons que suivre ce qui est normal. Donc on ne peut pas parler d'opposition ou de parti au pouvoir ou encore de majorité.
Aimé Maker Ouedraogo, en juillet 2024, la transition est censée prendre fin. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?
La transition n'a pas encore terminé avec la reconquête du territoire national. Les réformes promises sur la refondation des institutions, la réconciliation nationale, autant de secteurs et d'autres qui restent en souffrance. Comment la transition pourrait-elle prendre fin dans ces conditions? Comme nous le disons sans cesse, la priorité des priorités ne se trouve pas dans les élections, mais dans les réformes structurelles pour en garantir dorénavant le bon déroulement, les bonnes suites et plus généralement pour permettre les retrouvailles nationales. et les conditions d'un développement durable dans un pays pacifié.
C'était Aimé Macaire Ouédraogo, le président des jeunes cadres de l'UNDD au Burkina Faso. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye veut revoir la relation de son pays avec l'Union européenne. Le nouveau président recevait hier soir le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Dakar. Les deux hommes ont toutefois assuré vouloir définir un partenariat qui inclut le dynamisme du Sénégal. Le chef de l'État sénégalais compte notamment développer l'industrialisation à l'intérieur du pays, renforcer le secteur agricole ou encore la pêche. Il a déclaré que l'expertise et les investissements des entreprises européennes étaient les bienvenus dans ces domaines, ainsi que les télécoms ou les transports. De son côté, Charles Michel assure que l'UE a tout intérêt à aider le Sénégal à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Les dirigeants africains étaient à Lagos, au Nigeria, réunis en sommet depuis hier pour deux jours sur la lutte contre le terrorisme. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, le nombre d'attaques quotidiennes par les groupes extrémistes est passé l'an dernier de 8 à 44. Pour le président du Togo, Faure Gnassingbé, les institutions en place ne sont plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Des propos qui ont été largement commentés sur les réseaux sociaux, Wendy Bachi.
Kuna, qui commande depuis le Cameroun, partage le même avis que le président togolais. Il estime en revanche que le président de la Commission de l'Union africaine veut plus d'argent, car Moussa Faki Mahamat a déclaré que le continent a besoin de plus de fonds dans sa lutte contre le terrorisme. C'est aussi ce que pense Bakoboa au Mali. Il partage le même avis que Faure Gnassingbé et estime que Moussa Faki cherche comment gagner plus d'argent. Il est plus que temps que nous arrêtions de pleurnicher sur notre sort, commente Sekou depuis Bamako au Mali. Pour lui, les Africains doivent prendre leur destin en main. L'internaute estime que la solution viendra de l'Afrique même et non de ses partenariats avec d'autres nations. Pour Apollinaire du Togo, Faure Gnassingbé a eu le courage de dire tout haut ce que plusieurs murmurent dans les couloirs. Depuis Conakry, en Guinée, Thiam précise que la lutte contre le terrorisme doit se faire en combinant plusieurs stratégies, mais avant cela, il faut une prise de conscience. Et enfin, Issiaka de Ouagadougou estime que c'est, je cite, une organisation inutile, car chaque pays développe ses propres initiatives et des coopérations bilatérales pour lutter contre ce fléau.
En Guinée, les débats sont clos dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. En ce dernier jour d'audience, l'ancien ministre chargé des services spéciaux et de la lutte contre le grand banditisme, le colonel Moussa Tiekporo Camara, a été confronté à plusieurs victimes. La cour a décidé qu'il n'y aurait pas de transport judiciaire sur des sites susceptibles d'être des charniers. Les plaidoiries et les réquisitoires auront lieu le 13 mai prochain.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Au Tchad, la campagne électorale, je vous le disais, continue en vue de l'élection présidentielle du 6 mai prochain. 10 personnes sont en lice, 10 candidats, parmi eux le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre, Succé Masra. La candidature de ce dernier est souvent présentée comme un alibi pour l'actuel chef de l'État. Pourtant, lui, il affirme croire en ses chances de l'emporter. Succé Masra promet, s'il est élu, de reconsidérer les accords en cours, notamment militaires. Il souhaite ainsi des partenariats décomplexés et affirme que, je cite, « la place de l'armée française est en France ». Écoutez Succé Masra, il est interrogé par Georges Ibrahim Tunkara.
Je suis un patriote pro-Tchad, pro-Afrique et ouvert à travailler avec l'ensemble des différents pays. Et notre détermination en tant que jeunes Africains décomplexés, c'est d'inscrire chaque partenariat sur des défis du 21e siècle et sur les attentes de nos populations. Et aujourd'hui, nos populations vers des partenariats qui seront des partenariats de dignité, sans condescendance, sans volonté de domination. La dimension sécuritaire, il y a des choses qui doivent changer. La place de l'armée française, les Français eux-mêmes le savent, c'est en France. Il y a quelque chose qui, quelque part, peut faire perdre un peu de la dignité même à l'armée française, qui apparaît comme chassée d'un pays à un autre. Et donc, nous devons être capables de bâtir des partenariats nouveaux qui sont des partenariats où nous pouvons renforcer ce sur quoi nous avons des forces en commun et dépoussiérer ces relations-là des symboles qui ne sont pas des symboles qui peuvent continuer à rester ad vitam aeternam. Et dans cet ordre-là des choses, l'efficacité ne va pas forcément de pair avec une présence militaire ad vitam aeternam.
Succès Masra, le Premier ministre du Tchad, qui sera notre invité demain mercredi dans notre édition d'Info Matin à 7h, temps universel. Reporters sans frontières s'inquiète, je cite, des entraves croissantes que les autorités tchadiennes mettent à la liberté de la presse à l'approche de cette élection présidentielle. Parmi les faits mentionnés par RSF, il y a un conflit d'intérêts qu'elle relève. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a en effet choisi, aux côtés de Tchad Info et de l'Office national de l'audiovisuel tchadien, un autre média pour l'interview qui devait lancer sa campagne. Le hic, c'est que ce média, appelé Manara Radio Télévision, n'a été lancé que le lendemain de la diffusion de cette interview. Il se trouve qu'il appartient au directeur général de la communication de la présidence de la République, Hassan Abdelkerim Bouyebri. Par ailleurs, RSF dénonce que les services de sécurité tchadiens ont empêché des journalistes du site Al-Wida Info de couvrir comme ils le voulaient le premier meeting de campagne de Mahamat Idriss Déby, suite à quoi le média Al-Wida Info a annoncé qu'il ne couvrirait plus du tout la campagne du président. Président candidat. En RDC, les députés de l'Union sacrée, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, organisaient aujourd'hui une primaire en interne. Ils étaient appelés à choisir entre trois noms, celui de leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Les trois hommes candidats à la candidature sont Christophe Mboso, le président sortant de l'Assemblée, Modeste Bahati, qui est le président sortant du Sénat, et Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie dans le gouvernement sortant. Christian Mollequin, coordinateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo, analyse pour nous ce que cette primaire dévoile de la majorité parlementaire, mais aussi de l'attitude du président Félix Tshisekedi.
Ce qui différencie, c'est que Vital Kamerhe particulièrement a été, allié du président depuis 2018, alors que les deux autres sont les nouveaux alliés qui ont rejoint le président durant son second mandat, à l'occasion notamment de la mise en place de l'Union sacrée.
Et comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à se mettre d'accord sans avoir à organiser ce vote?
C'est que vous avez au sein du présidium trois acteurs qui ont les mêmes ambitions pour un même poste. Et l'Union sacrée, qui a de part été constituée autour de la dynamique FCC-Cash qui a éclaté, a encouragé une transhumance d'acteurs qui fait aujourd'hui, c'est la plateforme la plus grande, qui a énormément d'acteurs qui ont pour commun le fait de soutenir le président sans grande cohérence idéologique. Mais il y a également une autre lecture à faire. C'est que en les opposant, le président garde la posture d'être dernier arbitre. On sait que Bahati et Kamerhe sont des gens ambitieux, encore moins à moins Mboso, et donc il y a l'ombre 2028 qui se profile également par le fait qu'on peut occuper, en étant à la tête de l'Assemblée, une position de speaker qui vous donne une visibilité et un rayonnement. Et puis il y a le fait également que le président, en ne se prononçant pas, ne veut pas porter la responsabilité d'une frustration politique sur 2028, ce qui est une date très importante, parce qu'on aura un président qui sera à son dernier mandat constitutionnel, et donc occuper cette position pour eux peut être un présentoir pour les ambitions à venir.
Est-ce que ces primaires, ce n'est pas un petit peu de l'argent dépensé qui aurait pu être alloué à autre chose?
C'est surtout du temps perdu, parce que nous sommes déjà pratiquement à 4 mois des élections. On a besoin d'un gouvernement qui s'installe rapidement, et donc on aurait pu nous épargner toutes ces tensions. On sait que ça va créer des lignes de fracture, et donc c'est du temps perdu. On aurait pu avoir un arbitrage au niveau de l'Union sacrée et permettre au pays d'avancer plus rapidement. Parce que ce temps qu'on met pour avoir les primaires, en attendant, le calendrier définitif est mis dans le frigo parce qu'il faut aboutir à un ticket pour aller vers les élections. Donc, on perd du temps, on perd en argent, on renforce les frustrations et par-delà tout, c'est l'UDPS qui est la première force au Parlement. Ça veut dire que ça revient au président de choisir. On aurait pu épargner au pays tout le temps qu'on perd inutilement et aller vers rapidement la formation du gouvernement.
Christian Mollequin est aussi l'initiateur du Politoscope, qui est une plateforme de prévention de la violence verbale en politique. Je vous propose de retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet dw.com/français d'ici quelques minutes. Toujours en RDC, le gouvernement pourrait interdire la détention des chiens de combat aux particuliers. Le président Félix Tshisekedi a exprimé son inquiétude face à la prolifération de ce type de chiens dans le pays. Au cours du Conseil des ministres vendredi dernier, le chef de l'État a demandé au gouvernement de travailler sur la mise à jour d'une nomenclature qui permettra de classifier les différentes races de chiens. Des détails avec notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouezé.
Parmi les races pointées du doigt figurent les pitbulls et les bullbulls, dont le président Tshisekedi a souligné l'agressivité et la dangerosité. Certains Congolais rencontrés à Kinshasa soutiennent en effet l'interdiction de tels chiens. C'est le cas de joli Patrick Tshibangu. Il explique que son voisin en possède un et qu'il n'est pas rassuré.
Chaque fois que ce chien aboie, c'est une peur. Un jour, je peux tomber en embuscade vraiment avec ce chien ici. Ce chien doit être retiré de ce cas. Pour qu'il y ait au moins une paix morale. Un tel type de chien ne doit pas vivre aux côtés de la population. C'est un danger pour la population.
Des propriétaires de chiens de combat reconnaissent le danger que représentent ces bêtes, mais ils affirment les détenir non pas par plaisir, mais plutôt pour la sécurité de leur maison. C'est ce qu'explique un de ces propriétaires qui n'a pas voulu se faire identifier.
Étant fonctionnaire de l'État avec le peu que je gagne, je ne peux pas engager une centaine. Raison pour laquelle j'ai acheté un chien pour protéger la parcelle. La parcelle est clôturée. Les voisins, je ne crois pas qu'ils peuvent avoir peur. Avec les clowns, les chiens sont très nécessaires pour la protection.
La détention des chiens de combat par des particuliers pourrait donc être interdite dans les jours qui viennent. Une décision qui aurait un impact négatif pour les Congolais qui vivent de l'élevage des chiens. C'est le cas de Valdon Bobé, responsable de Z-Dog, une maison de production et de distribution de matériel d'élevage canin.
Sachez que le pitbull, le berger allemand et les autres chiens sont des éléments majeurs de notre activité. Certains d'entre nous ont investi dans ce domaine depuis très longtemps, pour ma part depuis 2017. Retirer ces chiens, ça serait déstabiliser notre commerce. Nous sommes des acteurs de développement. Chacun travaille à l'émergence de ce pays sur le front qui est le sien.
La question fait donc polémique en RDC, d'autant plus que de nombreux Congolais s'interrogent sur son urgence, alors que les violences dans l'est du pays continuent à faire de nombreuses victimes humaines. Jean-Noël Bamouezé à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
La Deutsche Welle, où il est 17h22 en temps universel.
Écoutez-nous sur internet www.com/français.
Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a fait passer à l'arraché son projet de loi sur les expulsions de migrants vers le Rwanda. Le Parlement a donc fini par adopter la nuit dernière le texte qui doit permettre de concrétiser un accord conclu avec Kigali. Un traité qui permet de renvoyer vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, notamment en traversant la Manche. C'est ce que nous explique Marco Voltaire.
Pour l'Organisation allemande de défense des migrants pro-asile, l'accord avec le Rwanda est clairement illégal, inhumain et extrêmement coûteux. En plus, poursuit l'ONG, il repose sur l'hypothèse erronée qu'il permettra d'empêcher la fuite de migrants vers le Royaume-Uni. C'est pourtant ce que prétend le Premier ministre Rishi Sunak, qui a fait de sa politique migratoire une clé de voûte de son action. Reste que cela passe, selon les Nations Unies, par des lois de plus en plus restrictives et qui ont érodé l'accès à la protection des réfugiés depuis 2022 au Royaume-Uni. Cette fois, la nouvelle loi d'expulsion vers le Rwanda contourne une décision de la Cour suprême britannique. Elle avait jugé le projet initial illégal car il violait, selon les juges, plusieurs accords internationaux et ce, au motif qu'il n'existe pas de procédure d'asile sûre au Rwanda ni de protection contre la persécution. Pour se mettre à l'abri des recours juridiques, le texte voté au Parlement déclare tout simplement le Rwanda comme un pays tiers sûr. La loi prévoit même que le gouvernement pourra outrepasser d'éventuelles injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'elle avait fait l'an dernier pour faire annuler à la dernière minute le décollage du premier vol d'expulsion vers Kigali. Mais Rishi Sunak est bien déterminé à concrétiser l'accord avec le Rwanda initié sous son prédécesseur Boris Johnson. Le premier avion pourrait décoller dans 10 à 12 semaines. 500 personnes chargées d'accompagner les demandeurs d'asile auraient déjà été formées. L'État mobilise également des juges pour traiter rapidement les recours juridiques des migrants qui peuvent encore contester individuellement leur expulsion.
5 nouvelles personnes ont péri aujourd'hui même dans la Manche. Cette voie maritime qui sépare donc la France et la Grande-Bretagne est l'une des plus fréquentées au monde. Ces personnes tentaient une traversée illégale à bord d'un canot pneumatique surchargé puisqu'il transportait plus de 110 personnes. Parmi les victimes se trouvait une fillette. L'Allemagne est dans le viseur des services d'espionnage chinois et une affaire qui prend déjà des airs de crise diplomatique. Hier soir, à Dresde, dans l'est du pays, un individu du nom de Yan Ge, ou G, a été arrêté en raison de soupçons d'espionnage en faveur de la Chine. Des informations confirmées par le parquet fédéral, lequel a également dévoilé la fonction de Yan Ge. Il n'est ni plus ni moins que l'assistant de l'eurodéputé allemand Maximilian Kra, la tête de liste du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, l'AFD, aux prochaines élections européennes. Depuis Berlin, les explications de Julien Méchossi.
Ressortissant allemand et assistant depuis 2019 à Bruxelles de l'eurodéputé Maximilian Kra, Yan Ge a été immédiatement suspendu par le Parlement européen. D'après l'expert en espionnage Michael Götzenberg, il aurait transmis des informations confidentielles au service de renseignement chinois.
Il s'agit d'informations issues des institutions européennes, plus précisément du Parlement européen, mais pas seulement. Yan Ge a également transmis des informations au service de renseignement de son pays concernant des dissidents chinois présents en Allemagne.
Impossible à ce stade de savoir exactement la nature de ces informations, mais à quelques semaines des élections européennes, la Chine a tout intérêt à connaître en interne les débats qui agitent les institutions européennes. Quant aux dissidents, la Chine a été récemment accusée de leur faire la chasse sur le territoire européen, avec notamment des prisons clandestines. Pour Nancy Faeser, ministre fédérale de la Justice, ces révélations sont très préoccupantes.
Les soupçons portés contre la Chine sont très graves. Et si ces soupçons venaient à être confirmés, qu'il y ait bien eu des activités d'espionnage depuis le Parlement européen, cela constituerait une attaque directe contre la démocratie sur le sol européen.
Outre Yan Ge, les regards se portent désormais sur Maximilian Kra et son parti Alternative für Deutschland. La tête de liste aux prochaines élections européennes du parti d'extrême droite est désormais sous le feu des accusations, ce qui a obligé l'un des dirigeants de l'AFD, Tino Chrupalla, à réagir.
Nous allons nous réunir en urgence dès ce soir ou demain matin au plus tard. Nous souhaitons en premier lieu nous entretenir personnellement avec Maximilian Kra. Lorsque l'un de nos collaborateurs se fait arrêter à cause de telles accusations, il est évident que cela nous inquiète au plus haut point.
Le gouvernement chinois a réfuté aujourd'hui officiellement ces accusations et ce alors que l'arrestation de Yan Ge survient au lendemain de l'interpellation de 3 citoyens allemands soupçonnés d'avoir livré au service chinois des informations sur des technologies militaires. Julien Méchossi à Berlin pour la Deutsche Welle.
DW Le sport Fiat Ndaira DJ.
Fiacre qui nous parle football ce soir. En Angleterre, Arsenal joue à domicile contre le FC Chelsea. Un match en retard comptant pour la 29e journée du Premier League. Un match décisif aussi pour les deux formations parmi les meilleures du championnat anglais.
Arsenal est certes leader au classement avec 74 points, mais à égalité de points avec Liverpool. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a tenu à rappeler ses joueurs l'importance du match qui les attend ce soir.
Same message, just keep doing what we've been doing.
Même message, continuez à faire ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire le maximum avec le temps dont nous disposions et les garçons semblent prêts. Chelsea a réalisé d'énormes améliorations dans son jeu. Il mérite une meilleure place au classement quand on voit la manière dont il joue. Les Blues du FC Chelsea sont justement 9e au classement et ils luttent donc pour avoir une place européenne. Arsenal reste toutefois favori dans ce duel, mais l'entraîneur du FC Chelsea, l'Argentin Mauricio Pochettino, se dit confiant quant à l'issue de cette rencontre. Bien sûr, nous sommes optimistes. Dans le football, le plus important est de croire en ses capacités. Et bien sûr, avoir une stratégie et le plan pour atteindre ce niveau. Arsenal était dans cette situation il y a quelques années. Avec le temps, avec la confiance, bien sûr, après quelques années, vous voyez le niveau que le club a atteint. C'est pareil pour différents entraîneurs comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp et au FC Chelsea, ce n'est pas différent. Il s'agit d'avoir confiance et de nous laisser travailler. Arsenal contre FC Chelsea, un match qui va débuter à l'Emirates Stadium à Londres à 19h temps universel.
Et tout de suite, dans quelques instants, il sera 17h30 en temps universel, droits et libertés.